Oui, c'est ce que vous avez l'air de dire. À vous entendre, on dirait que c'est tout la même chose. En fait, quelque part, le regard que portent les gens qui partent dans ces pays-là ou l'action qu'ils mènent, pour vous, c'est toujours la même chose. Il y a toujours ce rapport où le blanc sait, il possède le savoir, il possède les moyens. Et puis, les noirs, en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Afrique, eux, n'ont qu'à apprendre et à se soumettre.
Mais j'ai souvenir, par exemple, toute mon enfance, des discussions entre ma mère et deux autres femmes de son âge qui étaient toutes, qui s'étaient connues au Zaïre. Et donc elles étaient toutes femmes de responsables, mon père étant civil, les deux autres étaient des femmes de colonel. Et quand elles discutaient, elles disaient, mais enfin, mais on leur disait que ça ne pouvait plus marcher, qu'on pouvait plus se comporter comme ça par rapport aux Noirs. Mon père, chef d'une région au niveau civil, il avait toujours la clé. Il n'a jamais, alors que normalement c'était dans son mandat, il n'a jamais formé quelqu'un pour le remplacer. Quand il y a eu 1960, il a donné la clé à son remplaçant, mais c'est tout juste son remplaçant n'avait jamais ouvert l'armoire, alors que ça faisait presque 10 ans qu'ils travaillaient ensemble. Et donc très vite aussi, moi j'étais élevée en me disant, les femmes en tout cas avaient avec une autre idée de qu'est-ce que c'était être blanc ou comment être avec les blancs. Je pense que c'est pas la chicotte et les civis corporels, je pense que c'est pas les femmes qui les donnaient, c'était les hommes. Et même à l'intérieur de leur propre couple, il y a énormément de couples, par exemple, qui sont cassés, où il y a énormément de crises entre les couples, parce que les femmes n'étaient pas d'accord avec leur mari. Mais c'était pas elles non plus, elles n'étaient pas écoutées. C'était pas elles qui avaient l'autorité. Et les maris disaient, mais vous n'y connaissez rien, faites à manger et taisez-vous.
Et vous expliquez comment cette prise de conscience différente des femmes, comme vous nous le disiez tout à l'heure, par le fait qu'elles-mêmes étaient en contact quotidien avec la réalité des gens sur place?
Je crois qu'il y a que ça, et puis je crois aussi que qu'il n'y a pas, il y a pas cette image de pouvoir et d'autorité à défendre. Je pense que la femme l'est moins. On n'est pas éduqué pour. Je pense que les garçons le sont beaucoup plus à être performants, à défendre une autorité, à défendre quand même un pays.
Et les femmes sont décolonisées de toute façon?
D'une certaine manière, oui, c'est vrai que même à l'intérieur je pense qu'il y avait très peu, il y avait très peu de femmes qui étaient responsables ou du territoire ou autre. Au Zaïre, je crois que les seules qui étaient un petit peu responsables, c'était les sœurs.
You're driving me crazy. What did I do? What did I do to you? My tears for you make everything hazy. Cloud in my skies are blue. How true were the friends who were near me to cheer me when I needed you? But you were the kind who would hurt me, desert me when I'm feeling blue. Hey, you're driving me crazy. What did I do? What did I do to you? How true were the friends who were near me to cheer me when I needed you? But you were the kind who would hurt me, desert me when I'm feeling blue. Yes, you're driving me crazy. What did I do? What did I do to you?
Alors, vous le disiez par le biais de, bon, d'abord cette enfance, ensuite vos connaissances, vos amis qui partent par le biais du service civil dans les pays anciennement colonisés par la Belgique, et puis d'autres qui peut-être s'engagent aussi à leur tour dans un sens plus critique dans le travail humanitaire. Et puis, à un moment donné, un jour, c'est vous qui vous trouvez dans cette situation, puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous avez répondu à une demande où on vous disait on aimerait vous envoyer, par le biais d'une organisation non gouvernementale belge, on aimerait vous envoyer faire un travail avec des enfants dans les camps de réfugiés. Est-ce que dans ce travail très concret, précis-là, vous avez l'impression de revivre toutes les discussions que vous aviez eues sur quel type de coopération, quel type de travail humanitaire on peut faire avec vos amis, vos connaissances, etc.
Mais comme donc moi j'ai d'abord accepté parce que c'était un travail de type culturel. Je veux dire, si c'était un travail strictement humanitaire, c'est pas mon job. Et très vite, comme j'ai travaillé avec des enfants, donc j'étais évidemment très vite en contact avec des femmes, avec des mamans. Et j'ai perdu un peu le fil.
Qu'est-ce qui, est-ce que vous avez retrouvé dans cette proposition qu'on vous faisait toutes les discussions que vous aviez déjà eues, entre autres, une question dont vous aviez beaucoup parlé, qui était quel type de coopération ou de travail on peut faire avec les femmes, par exemple. Est-ce que là, en Slovénie, toutes les mêmes questions se reposaient?
Déjà, par exemple, au niveau du programme, au départ, dans l'organisation non gouvernementale qui est Cause commune, il y avait plusieurs axes. Il y avait l'enseignement, qui était un gros axe. Il y avait l'humanitaire, je dirais classique, qui était apport de nourriture. Et puis, il y avait la part culturelle. Et dans la part culturelle, il y avait un projet qui était normalement destiné uniquement, principalement aux femmes, aux adultes, qui tournait un peu autour de la couture ou de la création de la couture. Les autres étant destinés plutôt aux jeunes ou aux enfants. Dès le départ, ce programme destiné particulièrement aux femmes a été annulé. Donc, déjà. Alors qu'au niveau financier, c'était un des plus gros programmes. Et il était question d'envoyer 7 personnes. Ces 7 personnes ne sont jamais parties. Donc, les femmes, déjà, on n'en parle plus.
Mais pour des questions financières ou parce qu'on a estimé que ce projet n'était pas si important que ça?
Parce que la seule raison qu'on nous a donnée, c'était parce qu'il n'y a plus de demande. Parce que de la part d'une organisation slovène qui travaillait, avec qui on était en contact dès le début, il n'y avait plus cette demande. Mais j'ai jamais eu d'autres réponses, mais cette réponse-là, elle ne m'a jamais convaincue non plus. Je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi ça a été... ça a été annulé. Mais pour moi, j'étais très triste, en tout cas, dès le départ. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui coince. Je veux dire, on veut faire quelque chose par rapport aux réfugiés et on enlève déjà tout un programme destiné aux femmes, alors que la majorité des réfugiés sont des femmes. Les enfants, d'accord, mais les femmes, concernant les adultes. Et ça, on les nie. Je crois que ça ne suffit pas d'apporter de la nourriture et des couvertures ou par exemple au niveau de l'enseignement, d'apporter des tables, des chaises et des TV. Je crois qu'il faut aussi faire un programme beaucoup plus profond, il faut avoir une discussion au niveau de qu'est-ce que c'est l'éducation, qu'est-ce que c'est la pédagogie. Apporter du matériel, c'est très facile. C'est non seulement très facile, et en plus ça rapporte.
On va revenir à cette question-là, mais pour continuer un peu sur l'idée comment on peut à un moment donné avoir l'idée d'un projet à l'égard des femmes puis le supprimer ensuite. En fait, dans les institutions d'aide humanitaire ou organisations non gouvernementales, on a souvent l'impression que c'est très à la mode de travailler avec les femmes. Tout à coup, on a pris une conscience. Ah, les femmes sont les agents de la construction de la société. Alors tout à coup, il y a plein de projets qui fleurissent. Vous aviez senti un petit peu cette histoire mode, puis tout à coup, entre la différence entre ce qui se discute dans les instances de l'organisation, c'est une chose, puis ce qui se passe sur le terrain, c'est une autre.
Oui, c'est un truc de mode. C'est comme tous les partis qui ont, certains plus, certains moins, qui ont exigé, par exemple, à l'intérieur de leur liste, d'avoir une espèce de quota de représentation féminine. Ce n'est pas pour ça, pour moi, une garantie de qu'on fait réellement des choses au niveau féminin. C'est vrai qu'il y a énormément de projets qui sont destinés aux femmes, mais c'est destiné aux femmes travailleuses. C'est pas pour ça qu'elles ont un accès à la propriété de la terre. C'est pas pour ça qu'elles ont un accès à la gestion de leurs propres produits. Elles restent encore les travailleuses, je veux dire les responsables des projets ou les gens qu'on forme au niveau de comptabilité ou de gestion, en général, ce sont des hommes. Alors, c'est vrai que c'est difficile qu'on se retrouve devant des sociétés où eux-mêmes, ça a toujours été les femmes derrière et les hommes qui étaient, ou les chefs de village et qui étaient les représentants des communautés. Mais je pense que c'est à nous aussi à changer et je crois qu'on peut... je pense que c'est aussi un travail des des ONG et des gouvernements européens ou autres, c'est qu'à partir du moment où je crois qu'on est en droit de demander aussi un minimum de garantie par rapport à l'usage de l'argent. Et je pense que moi j'ai vu des projets qui étaient gérés par des femmes, en général, il y a beaucoup moins de détournement d'argent que quand c'est géré par des hommes. Et aussi, je pense que les femmes ont un souci beaucoup plus de collectivité. Cet argent est vraiment redistribué dans la collectivité, ce qui n'est pas vraiment le cas quand ce sont des hommes qui sont responsables de ce projet. Ils se font une hutte ou une maison un petit peu plus grande, ils la décorent un peu mieux, mais ça ne retourne pas au village en tout cas.
Cette discussion, visiblement, vous ne l'avez pas qu'avec vous-même, Mariska. C'est une discussion qui se fait au sein de milieux féministes belges ou de femmes qui travaillent en collaboration avec les ONG.
Oui, il y a une série, je ne me souviens plus du nom de ce regroupement, mais ce sont sont une série de femmes qui travaillent depuis, qui sont ou économistes ou qui travaillent dans le milieu médical. Qui ont travaillé pendant des années, parfois 10 ans, 15 ans dans la coopération, certaines continuent d'ailleurs, et qui se sont regroupées au niveau individuel, ce qui est déjà, moi je trouve, donc ce sont des citoyennes qui, au départ de leur propre expérience, que ce soit dans des pays particuliers ou dans leur organisation, se sont regroupés en disant, bon, maintenant, on va essayer de réfléchir, de voir, mais comment changer? Parce que même si au niveau des papiers officiels, on dit que ça change, dans les faits, ça ne change pas tellement. C'est un peu normal, on est un peu lent pour abandonner les pouvoirs. Mais je trouve intéressant, en tout cas, et ce sont en général des femmes aussi qui sont issues, pas pour toutes, mais qui sont issues d'un milieu féministe aussi. Parce qu'il n'y a pas de frontière au milieu au féminisme. Je veux dire, comme c'est pas une recherche de pouvoir, je veux dire, le combat des femmes, qui soient de l'Est, du Sud ou des pays asiatiques, il y a des choses qui sont pareilles et qui n'ont pas de frontières. Je crois que une femme qui se fait violer pour ses raisons, pour ses opinions politiques, je veux dire, la souffrance est la même, peu importe ses origines, et n'importe quelle femme peut le comprendre, ça.
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, justement, les femmes doivent être vigilantes, que dans tous les projets de coopération ou d'aide humanitaire, elles mettent leur grain de sel et veillent à ce que, justement, on essaye de donner un poids différent au travail et à l'action de soutien aux femmes. Autrement, ça ne se fera pas. On continuera à faire semblant ou à suivre des modes.
Mais je pense que c'est à la fois par rapport au travail, donc les destinataires du projet, mais c'est par rapport aussi à leur manière de travailler ou leurs possibilités. Si les femmes ne le font pas, ben, je pense pas que ce sont les hommes qui le font. Les hommes finiront par le faire, parce que je crois qu'il y a des gens, il y a des hommes aussi qui ont compris que c'était intéressant pour eux aussi d'avoir cette autre vision et d'élargir un petit peu et d'être un petit peu plus démocratique. Parce que il n'y a pas que les femmes qui souffrent de ces... De cette manière de se comporter comme ça un peu... Moi, je le ressens un peu, peut-être parce que c'est ma propre culture, mais encore un emprunt un peu de bonne volonté, de charité. Alors, c'est des mots qu'on ne dit plus, mais c'est des choses auxquelles on est encore très, très baigné, je veux dire, même si je peux avoir un recul par rapport à mon éducation, elle reste là.
Mais des fois, on a l'impression quand même que quand on lance certaines campagnes en disant les femmes sont au cœur de la formation de la société, c'est comme si on disait les charpentiers sont au cœur de la construction. Enfin, on catégorise les gens comme ça d'une façon un peu étrange, effectivement.
Mais il y a ce phénomène, par exemple, c'est pourquoi je suis à Genève, c'est pour monter une exposition. Je suis invitée par Amnesty dans le cadre d'une campagne internationale d'Amnesty qui est Femmes engagées, Femmes en danger. On est en 95. L'association Amnesty n'est évidemment pas à remettre en cause, et tout le travail qu'ils font par rapport politique, qu'ils font par rapport aux victimes du monde entier, il est connu et il est tout à fait louable et tout à fait respectable. Je trouve quand même étonnant qu'il a fallu attendre 1995 pour que Amnesty axe une campagne par rapport aux femmes, alors que c'est évident, et eux-mêmes le disent, qu'il y a des choses de qu'il y a des qui sont particulièrement destinées aux femmes. Rien que ça. Alors, c'est très bien que Amnesty le fasse, mais je veux dire, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on en parle. Et maintenant, on le fait parce que c'est à la mode. Je pense que ça aurait été un petit peu plus politique et un petit peu plus pervers, plus fort si une organisation avec l'aura qu'elle a l'avait fait il y a 10 ans. Maintenant, le faire ici, c'est très bien, mais on prend pas beaucoup de risques parce que c'est dans l'air du temps.
1, 2, 3, partez. Elle marche derrière lui. Décalqué dans du carbone, lui d'elle il dit c'est mon ombre, de lui elle dit c'est mon homme, la fille qui va se briser, cœur tout cassé, quand il va la laisser tomber.
Alors, pour revenir très concrètement à ce que vous disiez tout à l'heure, Mariska Forest, vous disiez, là, il y avait un projet normalement très concret en Slovénie d'aide aux femmes, un projet qui concernait les femmes. Il a été abandonné. Et effectivement, vous avez été confronté à une chose que vous m'avez racontée en deux mots, et ce qui, je crois, frappe aussi beaucoup de gens quand ils s'informent sur ce qui se passe dans ces camps. On donne toujours une image des gens qui sont dans des situations difficiles. Bon, là, clairement, maintenant, on parle de ces femmes qui sont dans ces camps de réfugiés, où on les voit accablées, où on les voit tristes, dans des locaux épouvantables, où on a l'impression qu'effectivement, on les a nourries, on les a logées, on les a habillées, et puis, on ne sait pas très bien ce qui se passe par la suite. Vous, très concrètement, vous avez fait un travail complètement différent avec elles, et ça vous a amené à avoir un regard très critique sur cette façon de donner à manger, à dormir et à s'habiller aux gens, puis que ça s'arrête là, souvent.
Mais je prends un petit exemple. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs allers-retours, et chaque fois entre la Slovénie et Bruxelles. À la fois, moi, ça me permettait de faire des échanges au niveau des peintures des enfants entre les enfants bosniaques et les enfants bruxellois, avec qui je travaillais à Bruxelles. Et aussi, très vite, autour de moi à Bruxelles, sachant que je faisais des allers-retours, les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner? Et en fait, moi, je me suis retrouvée, par exemple, à faire pas des grands convois, c'est pas mon travail, mais des choses qui manquaient et qui avaient pas dans qui avaient pas dans les dons de la communauté européenne, c'était les soutiens-gorge, c'était les petites culottes, c'était autre chose que c'était les obés ou tampax, c'était toutes ces petites choses intimes qui changent une vie et qui font qu'on considère quelqu'un comme qu'on le considère ou qu'on le considère pas. C'est-à-dire que c'est pas au niveau de la nourriture aussi, moi je pense que c'est très différent d'apporter un plat tout fait à quelqu'un que de lui apporter les ingrédients et que lui fasse. Et c'est toujours comme ça, cette même manière, c'est comme, j'aurais pu apporter des pots de peinture. On aurait pu apporter des pots de peinture, des feuilles, des pinceaux et dire voilà, allez-y. Et puis autre chose est de non, je pense que ça sert à rien. Autre chose est de peindre avec eux, de dire, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe. C'est eux doivent se prendre en main. Et moi, j'ai vu des femmes qui étaient effectivement dans des conditions extrêmement dures. Mais que chaque fois qu'on leur donnait la possibilité de faire quelque chose, ça veut dire de vous offrir quelque chose, que nous-mêmes, Européens, on soit aussi dans la situation de dire merci. Et moi, je sais ce que je retiens, en tout cas, des contacts avec ces femmes, c'est que moi aussi, j'ai pu dire merci. Ça veut dire que j'ai pu chaque fois garder pour moi ma tête haute et pas être... Et pas être celle qui apporte. Je veux dire, j'ai beau avoir été fille de colon, non merci.
Donc, vous voyez ça comment, en fait, par rapport à l'exemple des camps, on donne un moment des moyens de survie, bon, peut-être aussi, parce qu'il y a cette histoire qu'on n'imaginait pas que les gens allaient rester ici si longtemps et qu'on espérait qu'ils puissent retourner, eux espéraient surtout pouvoir rentrer plus vite. Là, tout à coup, il faudrait enclencher une vie au quotidien et ceci ne se produit pas. Est-ce que c'est pour des raisons financières ou est-ce que c'est vraiment pas dans la tête des gens qui pensent aujourd'hui l'aide humanitaire?
Je ne pense pas que c'est pour des raisons financières. Je prends par exemple au niveau un truc très concret qui est la nourriture. En tout cas, dans les camps en Slovénie, dans la plupart des camps en Slovénie, au début, en tout cas, la matière première était apportée par les communautés européennes, les pommes de terre, une partie était produite sur place et une partie était exportée. Donc c'est très intéressant pour la communauté européenne de pouvoir exporter son beurre, ses pommes de terre et tout le reste. Alors que du beurre et des pommes de terre, il y en a aussi en Slovénie. Mais bon, c'est aussi une histoire commerciale. Ça coûte très cher d'apporter des pommes de terre de Bruxelles à Ljubljana. Ça coûte quand même beaucoup plus cher parce qu'il faut payer les camions, il faut payer les camionneurs, les douanes, enfin. Et puis on apporte toute cette nourriture, cette matière première était fournie à une société slovène qui était capable de faire de la nourriture en grande quantité. On a choisi cette option-là. Donc, cette société slovène se faisait payer. Je veux dire, ces gens, c'était leur travail, donc c'est normal qu'ils se fassent payer. Et on a su dès le début qu'il y avait des détournements de nourriture de la part de cette société. Parce qu'on apporte 10 tonnes, c'est difficile quand il y a une tonne qui est partie. dit-on, c'est difficile de savoir, mais dit-on au marché noir, ça rapporte. Alors ça, c'est une chose. Déjà ça, on n'a pas vu. Ou on n'a pas fait en sorte que ça puisse changer. Il n'y a pas eu assez de vérification. Ce n'est pas le tout d'apporter des pommes de terre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et si des gens les utilisent pour les marchés noirs, c'est grave. Parce que ça veut dire aussi que ça discrédite certaines ONG. Et ça veut dire aussi que les gens sont parfois découragés de donner. Parce qu'ils savent très bien. On n'a plus envie de donner quand on sait que ça sert au marché noir. C'est dommage, ça. Mais ce qu'on n'a jamais fait, c'est de diviser, par exemple, les matières premières en fonction, par exemple, du nombre de gens par camp, de faire des tournantes à l'intérieur du camp et de dire aux femmes, voilà, il y a X matières premières, maintenant, si vous voulez manger, ben, vous le faites. Ça veut dire une activité, ça veut dire que ça obligerait les femmes d'abord à faire ce qu'elles ont vraiment envie de manger, avec leur assaisonnement. Ça veut dire aussi qu'on ne s'endort plus, qu'on est plus, qu'on ne doit plus dire continuellement merci, puisque c'est nous. Quand on a fait soi-même à manger, on ne dit plus merci.
Et qu'on retrouve un rôle actif en plus, parce que là, dans les camps, elles l'ont perdu.
Ben oui. Alors, c'est important pour elles, et c'est important aussi pour la vision pour leurs enfants aussi, parce que les petits pioupiou, ils voient leur mère qui font rien. Alors, comment considérer une maman qui ne fait rien? Même plus à manger.
Et ça, par exemple, les enfants l'exprimaient en travaillant avec vous. C'est une chose que vous avez vue parce que vous avez vu les mères, mais est-ce que cette perception que les enfants ont de l'immobilité de leur maman dans les camps, à part la vie qu'elle leur est imposée, ils en parlent au travers des moments de connivence que vous pouvez avoir avec eux, partager avec eux au moment où vous peignez ensemble?
Mais moi, j'ai vu... j'ai souvenir d'un petit garçon lors d'un atelier. C'était un atelier dans le camp de Vich, près de Ljubljana. Ils devaient prendre je leur proposais de prendre un polaroïd du camp, avec des gens ou pas de gens, une vue extérieure ou intérieure du camp. Et un petit garçon a choisi de photographier sa maman dans la chambre. Puis on est rentré dans l'atelier avec tout ce matériel, on les a agrandis, on a fait une série de dessins par rapport à ça. Et il y a eu à un moment toute une discussion qu'au début, moi, je ne comprenais pas. Ça faisait en serbo-croate. Et la jeune Slovène qui devait traduire me dit « Je ne peux pas traduire parce que c'est tout des gros mots. » Et je dis « Mais pour moi, c'est important aussi, tous les gros mots. » En fait, ils étaient en train de s'insulter. Et deux de ses enfants disaient « Ta mère est folle. »
Maman ou